Là, nous sommes en ce moment dans une série de prédications dans la première lettre de Jean. Donc, si vous voulez suivre sur vos Bibles ou si vous voulez lire sur les téléphones portables, vous pouvez préparer vos Bibles ou vos smartphones à la première lettre de Jean, 1 Jean, au chapitre 2. Et nous lirons ce matin les versets 18 jusqu'à 27. Et avant de lire, faire deux choses. Je vais prier pour recevoir, demander à Dieu l'onction et la conduite de son esprit pour nous tous. Et ensuite, je vais vous poser le contexte de la lettre. Prions. Seigneur, oui, donne-nous ton esprit afin que nous soyons renouvelés dans nos pensées, que nous ayons une écoute honnête, sincère de tes Écritures saintes. Parce que c'est par elle aujourd'hui que nous avons aussi la révélation de qui tu es et que nous pouvons te connaître, te contempler. Et en te contemplant, être transformés, nous aussi, à ton image. Donne-moi de parler avec justesse, humilité et force de ta parole. Amen. La première lettre de Jean, elle a été écrite donc à plusieurs communautés chrétiennes qui était confrontée à quelque chose d'assez nouveau pour elle. C'est un début de courant qui venait de l'intérieur de l'Église, qui venait de chrétiens, qui remettait en question qui était Jésus. Plus tard, on appellera du nom savant ce courant de docétisme, qui veut dire paraître, parce que ces chrétiens, voyez-vous, disaient que Jésus n'était pas vraiment devenu un humain, mais qui s'était déguisé pour nous rejoindre, mais qu'il n'avait pas pris vraiment la chair et la condition et la nature humaine, parce qu'un Dieu ne peut pas s'abaisser quand même à s'incarner, à naître, à devoir téter le sein de sa mère, apprendre à marcher et tout ça. C'est trop humiliant. Et je ne peux pas le développer maintenant, mais changer cet aspect de notre doctrine chrétienne, de dire, on appelle ça l'incarnation, le fait que Jésus est vraiment devenu humain. Ça bouleverse plein de choses dans notre façon de penser Dieu, de penser la vie, de penser nos corps, de penser nos communautés. Et ce début de ce qu'on appellera plus tard une hérésie était en train de naître dans les églises. Et Jean, qui était une sorte d'évêque quelque part pour ces églises, leur écrit cette lettre pour les encourager et les garder de glisser vers une autre façon de penser Jésus. Voilà. Et il va semer dans sa lettre plusieurs tests, plusieurs points un peu de carrefour où en fait il donne des façons de discerner dans quel camp on est, tout en exhortant à rester dans le camp de ce qu'il appellera la lumière et la vérité. Nous lisons donc ce matin la suite de nos diverses prédications qu'on a faites depuis quelques semaines en 1 Jean 2, les versets 18 à 27. Julie. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antéchrist venait, voici. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais de la sorte. Il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Et tous, vous avez la connaissance. Je vous écris non pas parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez. Et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, pardon. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, vous avez entendu dès le commencement ce qui doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, alors vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il vous a faite, la vie éternelle. Alors je vous écris ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas en mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, c'est du style de Jean, donc c'est parfois un peu des répétitions, on a l'impression qu'il dit plusieurs fois la même chose, mais avec en changeant un mot par-ci, par-là. C'est effectivement comme ça que Jean aime écrire, en spirale quelque part, en revenant sur des thèmes et en repassant des petites couches au fur et à mesure pour construire quelque part la façon de penser. Alors, plusieurs choses, mais dans ce texte, il y a ce mot-là, l'Antichrist. Alors là, on a toute notre imagerie de l'Apocalypse qui débarque avec des choses terribles et puis des tyrans qui dirigent le monde. On n'est pas vraiment dans ce thème-là. Mais on est plutôt en train de désigner des adversaires de Jésus, des adversaires, des personnes qui vont s'opposer à lui. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse pour apporter un élément de nuance. Être un adversaire, c'est pas pareil que être en désaccord. Être un adversaire, c'est pas pareil qu'être en désaccord. Être un ennemi, même, je pourrais dire, c'est pas être pareil qu'être un... Voilà. Imaginez deux personnes qui ne sont pas d'accord sur un sujet. Voilà. Est-ce que quand on met la table, on met le couteau à droite ou on met le couteau à gauche? Ces personnes ont un désaccord. Est-ce qu'elles sont des adversaires? Pas forcément. Est-ce qu'elles sont ennemies? Non plus. Ça va. OK. Mais quand elles vont vouloir collaborer pour mettre la table, il y en a l'une des deux qui va devoir céder ou vont faire des compromis étranges avec une assiette sur deux qui aura les couteaux de manière inversée, je ne sais pas. Mais ils ne vont pas pouvoir faire ensemble. Ils n'auront pas de communion dans ce lieu-là qui concerne que les couverts à table. Sur tout le reste, peut-être qu'ils vont bien s'entendre, mais ils ne seront pas forcément, on ne va pas les qualifier d'adversaires. Un adversaire, en fait, c'est quelqu'un qui va chercher à me détruire. Ce n'est pas juste quelqu'un qui ne peut pas collaborer avec moi sur tel projet. Ou c'est... Parfois même, on va trouver des personnes qui vont peut-être construire des projets antagonistes aux miens. Voilà. Je suis un élu et puis je veux militer pour que dans tel endroit, on rénove le quartier et l'autre, un autre élu, en fait, veut allouer une somme d'argent pour la construction... D'une piste cyclable. Voilà. Et puis, la mairie ne peut pas allouer de l'argent aux deux projets, donc en fait, nos deux projets tirent dans des directions différentes. Et en un sens, on ne collabore pas là. On dit, mais non, moi je veux que mon projet marche, mais non, c'est le mien qui va marcher, et on va se disputer quelque part le budget, ce qui ne veut pas dire qu'on sera des adversaires, encore, des ennemis. On ne se veut pas du mal, je ne veux pas la perte de l'autre. Mais là, sur ce coup-là, bon courage et que le meilleur gagne. Et sans rancune après coup. L'ennemi, il veut ma perte. L'ennemi, il veut ma perte. Je trouve que nous vivons une époque où nous mélangeons tout ça. Et celui qui ne pense pas comme moi sur tel sujet... Prenons des sujets bien clivants, bien pourris. L'immigration, le masque, le vaccin, toutes ces choses que vous avez connues qui ont divisé des familles. Méritait-il que nous soyons des ennemis, des adversaires, des opposants? Une idée différente sur telle chose faisait-elle de mon prochain quelqu'un qui veut me détruire? Mais à notre époque, ces choses sont comprimées, mélangées, indistinctes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Les antéchrists sont ceux qui sont des ennemis de Christ, des gens qui veulent le détruire. Vous connaissez plein de gens qui n'en ont rien à faire de Christ, ou plein de gens qui ont des opinions saugrenues sur Christ, ou plein de gens pour qui Christ sera un personnage historique, et ils ne reconnaîtront pas que Jésus est Dieu, qu'il est le Christ au sens biblique. Ce ne sont pas des antichrists. Le vrai Christ. Parce que le vrai Christ, qui est en nous, dans nos cœurs, que nous avons rencontré mystiquement, par une révélation spirituelle, ou en apprenant petit à petit, depuis enfant, à communiquer avec ce Dieu invisible, c'est cette relation-là qu'ils viennent briser. Alors oui, là, nous avons affaire à un antichrist. Mais prenons garde à ne pas faire de tous ceux qui ne pensent pas comme nous à propos de Jésus des adversaires et des ennemis. Distinguons. Jean a le souci ici du corps du Christ. Et si quelqu'un, un dimanche matin, venait en chair prêcher que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, ou comme pour ceux qui connaissent l'histoire de ce temple, à Vauvert, il y a deux temples. Il y a le grand temple et il y a le petit temple. Le temple qui est sur la place, derrière la médiathèque, et le temple de l'oratoire. Pourquoi il y a deux temples? Parce que, à une époque, dans le grand temple, alors que l'église réformée était traversée par un courant de philosophie et de... voilà, d'une forme de sagesse qui ne me paraît pas très sage. Le pasteur se mettait à prêcher que les miracles n'ont pas vraiment eu lieu, que la Bible était un texte ancien, mais peut-être pas si sacré que ça. Et un dimanche de Pâques, il a nié que Jésus était ressuscité. Et la division a eu lieu. Parce que pour le coup, ce Jésus avec qui nous sommes en relation nous était retiré. Vous croyez que vous parlez à quelqu'un de vivant? Il est mort. Cela voulait dire que Jésus n'est pas ressuscité. Donc vous parlez à qui dans vos cœurs? À personne. Une bonne part de la communauté n'a pas accepté ce discours et ils ont fait ce temple. De leur denier, de leur énergie, et nous en sommes les héritiers, de personnes qui n'ont pas voulu perdre leur Jésus. Qui est le menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Et Jean est très clair, si je me laisse être dépossédé de Jésus, si je laisse mon Jésus être défiguré, ce à quoi je m'expose, c'est de perdre pas seulement Jésus. C'est le Père et le Fils, dit-il. Celui qui est l'Antéchrist, il nie le Père et le Fils. Quiconque n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Mais celui qui confesse le Fils confesse aussi le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose d'assez fondamental et formidable pour moi. Vous ne pouvez pas vous faire une meilleure idée de qui est Dieu qu'en regardant Jésus. C'est impossible. Là aussi, beaucoup de croyants arrivent avec une superbe cape d'humilité en disant « Moi, je pense qu'on ne peut pas prétendre connaître quoi que ce soit de Dieu. Il est trop différent, trop grand, et nous, on ne peut pas... » T'imagines prétendre dire que tu connais quelque chose sur Dieu alors que Dieu est tellement grand. Et donc, dans une espèce d'humilité, ils interdisent quelque part de dire quoi que ce soit de vrai ou de certain à propos de Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu rester caché. Dieu a voulu se montrer à nous. Dieu a voulu nous rencontrer pour se faire connaître à nous. Et de quelle façon? En devenant un humain. En devenant Jésus. Vous voulez savoir à quoi ressemble Dieu? Lisez les évangiles. Écoutez comment les apôtres ont écrit des lettres à propos de Christ. Et vous saurez au plus sûr qui est Dieu. Qui est Dieu? Et je le redis très souvent, parce que ça me touche profondément, dans ma pastorale, dans mon accompagnement auprès de certains d'entre vous, je n'ai que trop rencontré des enfants de Dieu, des disciples du Seigneur qui vivent une relation avec Jésus et une autre relation très 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 différente avec Dieu le Père. Jésus, j'aime auprès de lui, j'ai confiance en lui, il me rassure, je me sens proche de lui, mais Dieu le Père, je le crains, je ne sais pas, je ne le connais pas. Relisez l'évangile de Jean, profondément. Jésus le répète, tout ce que vous me voyez faire, je suis en train d'imiter mon Père. Tout ce que je vous dis, je l'ai entendu de mon Père. Tout ce que vous voyez de moi, tout ce que vous aimez en moi, n'est que le reflet de qui est le Père. Un jour, Jésus fait un miracle, il guérit quelqu'un. Le jour d'un sabbat, vous imaginez bien, les pharisiens lui tombent dessus. Oh, t'as travaillé le jour du sabbat, hein, t'as sué là. Et Jésus leur dit, écoutez, mon Père travaille aujourd'hui, alors moi aussi. Si mon Père travaille aujourd'hui, et il l'a fait puisqu'il a guéri cet homme, alors moi aussi je travaille aujourd'hui. Parce que je fais comme mon papa. Et tout ce que vous me voyez faire, c'est que Dieu le fait. Vous représentez cette scène, vous avez peut-être dû les films sur la vie de Jésus. Jésus, torse nu, accroupi devant ses disciples, en train de leur laver les pieds. Là, il est en train d'imiter son Père. Jésus, accroupi devant ses disciples, en train de leur laver les pieds, il est en train d'imiter son Père. Poussez le raisonnement jusque-là pour rencontrer véritablement qui est Dieu. Et là, vous aurez le Fils et vous aurez aussi le Père. Ne les séparez pas, c'est pas fait pour. Le Christ nous a été donné pour rencontrer le Père. Paul dit, il est l'image visible du Dieu invisible. Alors, Jean a ses exhortations étranges. Vous avez reçu l'onction, dit-il à ses frères et sœurs. Vous avez reçu l'onction. Et du coup, vous savez. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Juste demeurez dans ce que vous avez reçu comme enseignement. Parce que vous avez reçu l'Esprit qui vous explique tout. On parlerait peut-être plus comme ça aujourd'hui. Pour une raison toute simple, c'est que Jean exhorte des églises qui n'ont pas de Bible au sens où nous l'entendons. Il exhorte des communautés qui n'ont pas tout le Nouveau Testament comme nous l'avons. Peut-être certaines épîtres circulent. Peut-être certaines lettres de Paul ou de Jacques ont été recopiées et on se les refile d'église en église. Et dimanche matin, on les lit. Mais certainement, aucun évangile à cette époque ne circulait. Ou peut-être le tout début. Aucun évangile, aucun récit de la vie de Jésus. Des traditions, une oralité, des personnes comme Jean, qui a vécu avec le Christ, étaient des personnes fondamentales pour la communauté, pour toutes les communautés chrétiennes, puisque leur récit était le témoignage de première main de qui est Jésus. et donc de qui est Dieu. Et Jean, plutôt que de leur dire « Croyez-moi sur ce que je vous dis, je l'ai vu de mes yeux quand même », était beaucoup plus en train de leur dire « Vous avez reçu dans votre cœur, par le Saint-Esprit, une connaissance ». La semaine dernière, on a eu Alain Marc, quelqu'un que notre communauté apprend à connaître, qui a fait 80 jours d'hospitalisation à peu près, et a traversé dans la fin de son séjour là-bas de grandes, grandes souffrances. Alain Marc nous a dit qu'il a été visité par Jésus. Et il l'a dit en étant profondément troublé parce qu'il était obligé de le dire, il s'est senti presque physiquement accompagné par Christ dans son épreuve. Et c'est quelque chose qu'il n'avait absolument jamais connu. Il existe pour nous un lien, je le dis mystique, parce que c'est le mot juste en fait, un lien invisible entre le croyant et son Dieu. Et Jean nous exhorte en disant « Vous avez reçu une onction de la part de celui qui est saint ». Et cette onction vous donne une connaissance. Alors, c'est pas comme si je me téléchargeais dans le cerveau des connaissances sur l'Église, sur les pères de l'Église, sur j'en sais rien, la Bible par cœur, des choses comme ça. Non. Mais c'est un discernement, un sens, une intuition du chemin, de la vérité. Il le dit, je ne vous écris pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la savez. Au fond de vous. Vous avez été converti au Christ, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, et cet Esprit est là en vous comme une boussole. Alors qu'il s'adresse à une église qui est divisée, parce qu'il y a des fausses doctrines qui commencent à fleurir dedans, qui créent une division, il y en a qui partent, Jean leur dit, écoutez, cherchez en vous la voix de Dieu, et elle vous conduira à la vérité. Et moi, je suis certain que vous tous qui avez reçu l'Esprit, vous reconnaîtrez la vérité. Aujourd'hui, nous sommes un peu mieux lotis parce que nous avons la Bible. Nous avons les Écritures. Mais cette boussole intérieure demeure. Lisez les Écritures et cherchez à y contempler Dieu. Et cette boussole, dans ce que vous lirez, va vous indiquer, vous se révéler à vous, vous toucher, vous bouleverser, vous émouvoir parfois, vous éclairer, vous instruire. Mais on peut lire la Bible très longtemps et ne pas rencontrer Jésus. C'est l'Esprit en nous qui a inspiré aussi ces textes, qui nous fait rencontrer le Christ à travers les Écritures. Vous avez l'onction, elle demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui, comme elle vous l'a enseigné. Et là encore, je reviens sur le témoignage d'Alain Marc, qui disait, le Seigneur m'a dit, ne sors pas du chemin, ne sors pas du chemin. Demeurez en lui. Demeurez en lui. Je ne veux pas rencontrer mon Dieu en dehors de Jésus. Je ne veux pas rencontrer un autre Dieu que celui que me montre Jésus. Je ne veux pas un autre visage et je ne crois pas, en fait, qu'il y ait un autre visage à Dieu que celui de Jésus. Que celui de Jésus. Alors demeurez en lui, ou si vous n'y êtes pas, demandez-lui de venir en vous, afin que vous soyez en lui. Il a dit, quel père, si son fils lui demande un poisson, il lui donnera un scorpion, ou s'il lui demande à boire, il donnera non, pardon, du pain, il demandera un serpent. Si vous, tout mauvais que vous êtes, vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père céleste qui est dans les cieux donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Alors, soit vous croyez que vous pouvez être un meilleur parent que Dieu le Père. Si vous acceptez qu'il est un meilleur parent que vous, demandez l'Esprit Saint et ayez la certitude que si vous le demandez sincèrement, cela vous sera donné. Et alors vous serez en Christ, vous allez découvrir Christ et il sera en vous. Et là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen.